Chapitre 5. Quelques jours s'écoulèrent et Albert Guittard commençait déjà à oublier cette mésaventure lorsqu'un matin, il reçut une lettre de Clotilde. « Cher ami, écrivait-elle, je n'oublierai jamais la sympathie que vous m'avez toujours témoignée. Il peut vous sembler étrange que brusquement j'éprouve le besoin de vous le dire. Je suis certaine que vous vous méprendrez sur mes intentions en lisant ces lignes. » Aussi, je tiens à mettre d'abord les choses au point. Ne croyez surtout pas que je veuille troubler votre bonheur. Je n'écris qu'à l'ami dévoué que vous avez toujours été pour moi. Il me serait bien pénible que cet élan vers vous pût faire naître un malentendu. Il faut, vous m'entendez, cher ami, il faut que vous veniez me voir cet après-midi. J'ai des choses très importantes à vous dire. Je vous attendrai donc de 5 à 7 heures. À cet après-midi donc, cher ami, grand ami, veuillez transmettre à Madame Albermarle toute ma sympathie et croyez à toute ma sincère amitié. » Lorsqu'il eut achevé la lecture de cette lettre, Albert Guittard fut la proie d'une foule de sentiments contradictoires. En même temps qu'il ne pouvait nier le contentement dans lequel cet appel le plongeait, une lourde anxiété pesait sur lui. Qu'allait-il donc se passer ? Pourquoi Clotilde éprouvait-elle subitement le besoin de le voir ? Il trouvait pourtant impoli que Winnie eût été laissée ainsi à l'écart. Cette omission n'était-elle pas volontaire ? N'indiquait-elle pas le peu de cas que l'on faisait des sentiments qu'il pouvait avoir pour quelqu'un ? Albert Guittard plia la lettre, la mit dans son portefeuille. Au bout de quelques instants, il ne put résister au désir de la lire. Pouvait-il la montrer à Winnie ? Il la relut encore, avec les yeux de Winnie cette fois. Évidemment, pensa-t-il, il n'y a rien de compromettant. Pourtant se glissait dans son esprit le soupçon que Clotilde avait eu, en l'écrivant, l'arrière-pensée d'amener le désaccord dans son foyer. Ses allusions à leur amitié n'étaient-elles pas destinées à jeter le trouble dans l'esprit de Winnie ? À la réflexion, il décida finalement de ne pas parler de cette lettre à Madame Albermarle. Celle-ci, certainement, n'eût rien trouvé à reprendre dans ce mot. Mais on ne savait jamais. Quoiqu'elle n'eût rien démêlé de ses pensées, il eût pu se faire qu'au fond d'elle-même un reproche eût germé. Le plus sage était de considérer soi-même cet incident comme insignifiant et de n'en pas parler comme s'il l'avait sincèrement oublié. À 6 heures, Albert Guittard arriva chez les Pennard. Bien qu'il affectât une certaine désinvolture, il était néanmoins assez ému. Il ne s'expliquait pas pourquoi Clotilde ne l'avait pas mis au courant, en quelques mots, de ce qu'elle attendait de lui. De cette omission volontaire, il tirait une foule de suppositions. Elle n'avait peut-être rien à lui demander. Tout ce qu'elle voulait, c'était qu'il vînt, et pour en être plus certaine, elle avait, par des sous-entendus, rendu nécessaire sa venue. Jalouse de son bonheur, elle avait voulu lui parler en tête-à-tête pour s'assurer que ce dernier n'était pas aussi grand qu'il paraissait. Il triomphait donc. Il se souvenait de l'attitude qu'avait eue Clotilde le jour où elle lui avait rendu visite avec Madame Thiers-Barre. L'indifférence de Madame Pennard vue de loin, vue après la réception de cette lettre, prenait un tout autre aspect, un aspect qui comblait d'aise Albert Guittard. Ce détachement avait donc été fin, puisqu'un appel lui avait pourtant succédé. Ce fut, les yeux mi-clos, une cigarette à la main, assise sur une chaise longue, que Clotilde reçut Guittard. « Comment allez-vous, mon cher ami ? » dit-elle tout de suite, en lui désignant nonchalamment un fauteuil. « Comment allez-vous ? J'avais très peur que, dans votre lune de miel, vous ne m'ayez complètement oublié. » L'homme en temps habituel est déjà égoïste, mais lorsqu'il est amoureux, c'est effrayant. Le moindre événement sortant de l'ordinaire lui semble devoir compromettre son bonheur. Il a peur du passé, du présent, de l'avenir. Il a peur des lettres, du télégraphe, de ses amis, de ses ennemis. Je ne suis pas si craintif que vous le dites, puisque je suis venu. Mais cela vous a beaucoup coûté sans doute. « Croyez, amis, ce ne sont pas des reproches. J'ai été comme vous, bien que je sois une femme. » Malgré sa méfiance, Albert Guittard fut touché par ce langage. Durant quelques secondes, il oublia même son désir de vengeance. Il se dégage toujours une certaine tristesse de ces êtres qui, oubliant qu'ils ont été les plus forts, s'adressent avec humilité à leurs interlocuteurs. « Je dois vous dire, continua Albert Guittard, que vous m'avez intrigué, mais je veux supposer que vous l'avez fait involontairement. » « Oh, je ne fais plus rien, ni volontairement, ni involontairement. Je ne suis qu'une pauvre femme qui souffre. »« Que voulez-vous dire ?»«
Rien. » »«
Enfin, vous voulez donc m'intriguer jusqu'au bout ?»«
Je vous dis que je ne veux rien. Je suis une pauvre femme, une faible femme. C'est tout. »
Devant le spectacle de cet accablement, dont il ne connaissait pas la cause, Albert Guittard, en même temps qu'il était perplexe, se sentait envahi par une légère stupéfaction. N'en était-il pas une des causes? Son bonheur n'avait-il pas fait naître chez cette femme le sentiment qu'elle était malheureuse? Pourtant, quelque chose étonnait Albert Guittard. De la joie que procure la vengeance, il avait attendu beaucoup plus. Comment se faisait-il que, victorieux à ce point, il n'en tira pas une satisfaction plus grande? La vérité est qu'aussi petit que notre héros était, il n'en ressemblait pas moins à tous les hommes. Et il est bien rare que la force ne soit accompagnée d'indulgence. Le bonheur, à son insu, l'avait changé. Et si, machinalement, il désirait toujours la vengeance, elle ne lui causait plus le plaisir qu'elle lui eût causé jadis.
Il s'est passé bien des choses depuis quelques jours, poursuivit Clotilde. Vous vous rappelez la conversation que vous avez eue avec mon mari ?
En effet, répondit Guittard avec froideur.
Eh bien, cette femme vient de rentrer en France. Elle est venue relancer mon mari jusqu'ici. Elle l'a de nouveau conquis. Et maintenant, je suis seule au monde, seule, vous m'entendez ? J'avais tout donné à mon mari, ma jeunesse, ma fortune. Pour lui, je me suis brouillée avec ma famille, avec mes amis. Et maintenant, il m'a abandonnée sans me donner la moindre explication.
Il est parti ?
Il a rejointe. Ils vivent ensemble dans un hôtel près de la gare. Mon Dieu, que vais-je devenir ? Et moi qui l'aimais tant, moi qui aurais tout fait pour lui. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai écrit, pourquoi je tenais tellement à vous voir. Vous avez toujours été si bon pour moi. Il n'y a plus que vous en qui je peux me confier.
Mais vos amis,
ne me parlez pas d'eux. Vous n'êtes pas un enfant. Vous savez comment le monde est fait. Je n'ai plus d'amis parce que je n'ai plus de fortune. J'ai emprunté hier 1000 francs à Madame Beaufort. Elle me les a donnés, mais j'ai perdu son amitié. J'ai dû emprunter la même somme à Monsieur Morin. Il me les a prêtés, mais c'est fini entre nous.
Et Brigitte ?
Oh, elle, c'est une autre histoire. Elle est dans une situation encore plus tragique que la mienne. Elle aime un jeune russe, un artiste, et son mari, venu ici à l'improviste, la surprise.
Sur le coup, Albert Guittard oublia sa rancune.
Ce n'est pas possible. Mais si, tout est possible. Mon Dieu, que vais-je devenir? Monsieur Guittard, je vous en supplie, soyez bon pour moi, ne m'abandonnez pas. Vous ne pouvez pas avoir oublié tout ce qu'il y a eu entre nous. Combien j'étais gentille avec vous. Protégez-moi. Ah, si vous vouliez, peut-être mon mari vous écouterait. Il m'a tellement dit de bien de vous. Il avait pour vous une si grande admiration que si vous lui parliez, si vous le raisonniez, peut-être me reviendrait-il.
Mais je ne demande pas mieux, répondit Albert Guittard.
Comme c'est beau de votre part. « Merci, merci. Je savais bien que votre amitié pour moi était au-dessus de tout. »
À ce moment, Clotilde s'interrompit. Les yeux au ciel, elle parut rêver durant quelques instants.
« Quelle drôle de chose que la vie! On s'attache à des êtres qui vous bafouent, on passe à côté de ceux qui feraient votre bonheur sans les voir, et un jour arrive où l'on se tourne vers ceux-ci, mais en amis seulement, car la vie les a séparés pour toujours. »
Albert Guittard était ému. Il participait de tout son cœur au malheur de Clotilde, mais, chose étrange, en homme qui a son bonheur à lui. Alors que jadis, une telle aventure l'eût transporté de joie par les possibilités qu'elle lui eût données de prendre la place du mari,
d'être aimé d'une femme qu'il aimait, aujourd'hui, non pour Winnie qui n'aimait pas en réalité, mais pour continuer à croire qu'il était véritablement heureux, il ne tenta pas de profiter de la situation. Maintenant, il ne voulait plus qu'être grand et généreux, mais sans compromettre un bonheur auquel il voulait plus que jamais croire. Son désir de vengeance, après avoir pris toutes les formes, avait trouvé à présent un moyen de se réaliser. La magnanimité serait sa vengeance. Il ferait tout ce qu'on lui demanderait, mais il ne pourrait rien donner de lui-même, puisqu'il était pris ailleurs. « Eh bien, j'irai le voir demain, » dit-il avec décision. « Ou plutôt, je lui téléphonerai pour lui demander un rendez-vous, car je ne tiens pas à rencontrer cette femme. » « Oh, si vous saviez comme je vous suis reconnaissante! Merci, monsieur Guittard, merci de tout mon cœur !» Pourtant, il y avait quelque chose dans l'attitude de Clotilde qui gênait notre héros. C'était que, justement, elle se contenta de ce qu'il proposait de faire pour elle et ne parut pas déçue qu'il ne fît pas davantage, qu'il ne parla pas, par exemple, de quitter Winnie, de l'aimer, elle, de refaire sa vie en sa compagnie. Mais il n'eut pas le temps d'approfondir ses sentiments. Brigitte Thiers-Barre venait d'arriver. Elle était pâle, comme prête à pleurer. On lisait un profond affolement dans ses yeux. Jusque dans sa toilette, on le découvrait. N'avait-elle pas une écharpe qui flottait autour de son cou? Son chapeau n'était-il pas un peu trop en arrière? « C'est terrible! C'est terrible !» dit-elle tout de suite. Puis, apercevant Albert Guittard, elle ajouta « Excusez-moi, monsieur, je suis bouleversée, je ne sais plus que faire. Qu'allez-vous penser de moi? Mon mari veut m'obliger à repartir ce soir même pour l'Allemagne. Si je ne pars pas, il m'a juré qu'il irait se battre avec Dimitri. Oh, que c'est terrible, mon Dieu, que c'est terrible! Écoutez-moi, Clotilde, qu'est-ce que je peux faire? Je ne pourrai jamais quitter Dimitri, et si je reste, il y aura une bataille. » Vous connaissez Dimitri, il est malade, il n'est pas fort. Mon mari le tuera. Je ne sais pas, je ne sais, répondit Clotilde, dont l'accablement était tel qu'elle ne pouvait s'intéresser à autrui. Excusez-moi, Clotilde, je ne pense qu'à moi. Et vous qui êtes si malheureuse aussi, vous qui me laissez parler, qui m'écoutez, alors que vous souffrez autant que moi. En face de ces deux femmes, Albert Guittard était embarrassé. Il ne savait quelle contenance prendre. Mais ce qui l'humiliait le plus, c'était qu'il se sentait inutile. « Il y a toujours quelque chose à faire, dit-il finalement, pour jouer un rôle. Si vous aimez cet homme, vous n'avez qu'à vous enfuir avec lui. Votre mari, aussi habile qu'il peut être, ne vous retrouvera pas. « Mon Dieu, que vais-je faire ?» continua Brigitte, sans tenir compte du conseil que venait de lui donner Albert Guittard, car, malgré sa douleur, il lui était apparu que ce qu'il lui proposait de faire était justement ce qu'avait fait le mari de son amie Clotilde Pénère.